Une heure à Conakry, à Bamako et à Ouagadougou. Bienvenue dans Sahel+, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel+, l'épidémie Ebola représente désormais un défi complexe pour le développement de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone pour le programme des Nations Unies pour le développement. Au Mali, la colère est toujours grande après la libération d'un djihadiste.
L'incompréhension, l'indignation, l'effondrement, vraiment les mots me manquent. On ne comprend pas du tout que l'assassin de notre collègue soit libéré.
Reportage de Kassim Traoré à suivre. Grève illimitée dans le secteur pétrolier du Nigeria. Enfin, le Burkina Faso a rendu hommage à Norbert Zongo ce week-end. Mais auparavant, voici le bulletin d'information présenté par Jean-Roger Bion. Bonsoir Jean-Roger.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Le Burkina Faso, le gouvernement de transition a annoncé la suspension du CDP. C'est le Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti de l'ex-président Blaise Compaoré. Monsieur Compaoré, on se le rappelle, a été chassé du pouvoir fin octobre après avoir dirigé le Faso pendant 27 ans. Les nouvelles autorités ont également suspendu un autre parti et d'une grande association pro-Compaoré, issue de la fusion en 1996 de 13 formations favorables à l'ancien régime. Le CDP a remporté toutes les élections depuis sa création et il disposait à lui seul de la majorité absolue à l'Assemblée nationale depuis les législatives de 2007. La justice ivoirienne va prononcer mercredi sur une querelle intestine du parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, fortement divisé entre deux camps qui ont fait appel aux instances judiciaires pour trancher. La justice va donc rendre sa décision mercredi à midi, a déclaré Mamadou Sanogo, le chargé de communication de Pascal Affi-N'Guessan, hein, l'actuel patron du Front populaire ivoirien. Le premier forum international sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouvert ce lundi à Dakar, avec pour objectif d'accroître l'implication des Africains dans leur défense face aux défis qui secouent le continent. Plus de 300 participants, dont 5 chefs d'État, prennent part au premier forum international sur la paix et la sécurité. Et puis au Nigeria, les deux principaux syndicats du secteur pétrolier ont lancé une grève illimitée. Ils accusent Abuja de négliger la lutte contre le sabotage des oléoducs et de relancer une nouvelle législation contre la corruption dans le secteur pétrolier. Les syndicats demandent aussi un meilleur entretien des routes en très mauvais état dans le delta du Niger.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La Belgique, paralysée aujourd'hui par une grève générale contre l'austérité, qualifiée d'historique par les syndicats. Les syndicats belges contestent le plan d'austérité décidé par le nouveau gouvernement de Charles Michel, qui entend notamment économiser 11 milliards d'euros en 5 ans. En Australie, fin dans la nuit de lundi à mardi de la prise d'otage dans le Lind's Chocolate Cafe, un établissement du centre-ville de Sydney. Des médias australiens ont fait état d'au moins 3 blessés et de 3 morts. Jacques Aristide.
Après plus de 16 heures d'angoisse, la police australienne a mis un terme à la prise d'otage dans un déluge de feu. Le preneur d'otage était un Iranien d'une cinquantaine d'années, accusé notamment d'une série d'agressions sexuelles et de complicité de meurtre en lien avec la mort de son ex-épouse. Il devait comparaître lors d'un procès prévu en février 2015. Man Haron Monis avait également été condamné en 2012 pour avoir envoyé des lettres d'injures ou de menaces aux familles de 8 soldats australiens tués en Afghanistan pour protester contre l'engagement de Canberra dans le conflit. Peu après la prise d'otage, l'homme avait fait brandir un drapeau noir portant des inscriptions blanches en arabe. Le réfugié iranien qui s'était intronisé Sheikh exigeait de s'entretenir avec le premier ministre australien Tony Abbott. L'Australie, qui participe à la coalition militaire organisée par les États-Unis contre l'État islamique en Syrie et en Irak, est en état d'alerte élevé. Les autorités craignent des attaques de la part de musulmans australiens de retour des combats au Proche-Orient.
Merci Jacques. En Syrie, des combattants du front Al-Nusra, un allié d'Al-Qaïda ainsi que d'autres groupes islamistes se sont emparés de 2 bases militaires stratégiques dans le nord-ouest du pays. L'information a été communiquée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon l'ONG basée à Londres, au moins 31 soldats du gouvernement et 12 combattants de l'opposition ont trouvé la mort dans les combats qui ont commencé dimanche. On retrouve Claire Morin-Gibourg pour la suite de Sahel+.
Merci beaucoup Jean-Roger. Retour à la partie magazine de Sahel+. Nous ouvrons l'émission avec l'épidémie Ebola, un nouveau rapport publié par le Bureau Afrique du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, met en exergue le fait que l'épidémie représente désormais un défi complexe pour le développement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Abdoulaye Mar Dieye est directeur Afrique du PNUD.
Au-delà un peu de cette crise médico-sanitaire, Ebola est une crise de développement. Nous avons fait une première étude d'impact parce que nous approfondissons nos études au fur et à mesure que nous avançons. Et nous voyons que les trois pays de l'épicentre, comme on dit, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, ont perdu en 6 mois 4 à 5 points de croissance, ce qui est énorme. Ces pertes, disons, de croissance, nous les voyons que en situation de conflit armé aigu. Il est vrai que Ebola est une situation de conflit armé aigu. Donc, le premier choc, c'est un peu ce recul massif de la croissance économique en si peu de temps. Et deuxièmement, on a vu des poussées inflationnistes extrêmement élevées dans ces pays-là, de l'ordre de 20, 25, 30%. Et sur certaines denrées, sur les denrées de première nécessité comme le riz, on a eu des pics de prix de l'ordre de 100%. Donc, l'inflation a été dévastatrice dans ces trois pays-là.
Quels sont les derniers constats que vous avez faits concernant l'épidémie Ebola?
Nous avons aussi constaté une destruction un peu du tissu social. Et c'est là le plus important. Il est vrai que ces pays sortent de crise et donc n'avaient pas un peu un contrat social densifié. Et ça, cette faiblesse du contrat social est en train d'affecter un peu ces pays. La preuve, lorsque le gouvernement essaie d'aller dans des zones reculées pour faire la promotion de la lutte contre Ebola, les populations n'ont pas confiance. Pensent un peu que le gouvernement est en train d'amener Ebola. Et donc ce sont des pays qui sortent des situations où la cohésion sociale était extrêmement fragile, c'est-à-dire le contrat entre l'État et les communautés était encore très très faible.
Et selon votre rapport, Ebola a aussi impacté plus spécifiquement les femmes.
Nos statistiques le montrent. L'impact est encore beaucoup plus sévère sur les femmes et que donc, en somme, c'est un effet dévastateur que nous constatons sur le développement humain de ces pays-là.
Rendez-vous demain pour la suite de cet entretien avec Abdoulaye Mar Dieye, le directeur Afrique du PNUD. Au Mali, suite à la libération de 4 djihadistes par les autorités maliennes, le syndicat des surveillants de prison envisage une grève de 48 heures, suivie d'une marche sur l'Assemblée nationale jeudi prochain. Les gardiens de prison condamnent la libération de Mohamed Ali Wadosen, qui a tué leur collègue, Kola Sofara, à la prison centrale de Bamako. Reportage de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Dès la libération des 4 terroristes, les surveillants de prison n'ont pas caché leur colère suite à la libération du terroriste Mohamed Ali Wadosen, lieutenant Burema Sogodogo, secrétaire général de la section syndicale des surveillants de prison du Mali.
L'incompréhension, l'indignation, l'effondrement, vraiment les mots me manquent. On ne comprend pas du tout que l'assassin de notre collègue Kola Sofara, ici que je nomme, soit libéré. Aujourd'hui, il peut aller là où il veut. La famille de Kola est là. Quand on meurt pour la République, qu'est-ce que l'État doit faire? Vous savez, aucune somme ne peut être donnée à quelqu'un pour aller se donner la mort. Aucune somme. Seule la conviction peut amener un homme à agir de la sorte. Et cette conviction ne peut en aucune manière être fondée sur l'injustice et la discrimination. D'où aujourd'hui le sentiment des surveillants de prison d'être rejetés par cette libération.
Sans armes, sans munitions, les surveillants de prison sont les parents pauvres de l'administration pénitentiaire. C'est pourquoi ils réclament aujourd'hui leur statut particulier.
Les caractéristiques propres liées à ces gens du corps, un corps paramilitaire, un corps de sécurité, ces caractéristiques-là même requièrent que ce statut soit de nature législative compte tenu de la législation malienne même. Parce que ces caractéristiques ne peuvent pas être prises en compte si le statut n'est pas de nature législative. Parce que à travers le statut législatif, ça va contribuer à améliorer leurs conditions de vie et de travail.
Au cours d'une conférence de presse, le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, n'est pas allé avec le dos de la cuillère suite à la libération des terroristes. Amadou Amion Guindo.
Quels que soient les cris et les dénonciations que nous avons poussées, le pouvoir politique, le pouvoir ne nous a pas écoutés et qui continue son chemin. Ça veut dire que nous sommes gérés hors cadre juridique aujourd'hui. L'État, sinon le chef de l'État, ponctuellement engage le peuple malien dans ce que nous considérons de mauvaises aventures. Parce que seul, il décide, il n'a jamais informé le peuple malien de quoi que ce soit. Et pourtant, c'est l'avenir du pays qui est ainsi géré.
Le patron de la CSTM ne s'est pas limité à cette seule question.
Au niveau de la CSTM, nous avons noté effectivement que depuis quelques mois, l'État est embrouillé avec ses partenaires au développement. Tout le monde a noté, en son temps aussi, que le délai qui avait été donné à l'État malien, c'est qu'au 30 novembre, tous ceux-là qui étaient impliqués dans cette mauvaise gestion soient sanctionnés. Nous sommes au 13 aujourd'hui, on se frotte bien les mains, on les a même renouvelé leur confiance pour dire on peut continuer, impunité.
En tout cas, le samedi 13 décembre 2014, dans la nuit, le président de la République du Mali a reçu les syndicats de surveillants des prisons pour leur donner des garanties quant à la prise en charge de la famille de leurs collègues tué par le terroriste Mohamed Ali Wassiden, Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Bamako, où vous nous écoutez sur le 102 FM. Au Nigeria, les deux principaux syndicats du secteur pétrolier au Nigeria, premier producteur africain d'or noir, sont en grève illimitée. Selon eux, le gouvernement est incapable de lutter contre le vandalisme des oléoducs, de maintenir les routes et les raffineries en bon état et de lutter contre la corruption. Bien que premier producteur de pétrole d'Afrique, le Nigeria importe l'essentiel de son carburant en raison d'une insuffisance flagrante de ses capacités de raffinage. La majorité de sa population vit avec moins de 1 dollar par jour. Pour en savoir plus, Idriss Fall a joint le professeur Asho Akakuru de l'université de Port Harcourt dans la région pétrolière du Nigeria.
Ce matin, sur ma route à l'université, j'ai entendu parler de ce grève. J'ai commencé déjà à voir certains gens dans leur voiture qui voulaient faire le plein parce qu'ils avaient peur qu'ils ne pouvaient pas supporter une pénurie d'essence. Les gens se rappellent que si on commence à retourner à la queue, ça va faire d'énormes problèmes. C'est la raison pour laquelle tout le monde fait hâte pour faire le plein d'essence.
Le Nigeria est le premier producteur, mais importe son essence. Et pourquoi ça?
Oui, le Nigeria, il importe une partie de cette essence. Parce que parfois, nos raffineries ont des problèmes de temps à autre. Mais parfois, les raffineries travaillent à certains pourcentages.
Et est-ce que l'essence est toujours subventionnée au Nigeria?
Oui, ce que le gouvernement fait entendre. Et chaque fois que le gouvernement s'apprête à enlever cette subvention, il y a tous des incidents. Et puis, le gouvernement craint les retombées politiques, raison pour laquelle on laisse de temps à autre cette histoire de subvention.
Est-ce que la région du Delta où vous vous trouvez profite en fait de la production pétrolière?
La région du Delta commence à profiter depuis Jonathan parce qu'il y a des constructions énormes qui ont lieu. Je crois que le gouvernement actuel répond aux attentes des gens, mais vous savez que l'histoire de Boko Haram est une espèce de distraction qui n'est pas utile et auquel le gouvernement essaie de faire face. Cette histoire de Boko Haram gêne beaucoup le gouvernement et entraîne le gouvernement à dépenser beaucoup d'argent par-ci, par-là. Et je crois que c'est quand même quelque chose de très sérieux pour nous. Hein. Et ça gêne le gouvernement parce que le gouvernement veut à tout prix restaurer la paix, l'entente nationale.
Mais le gouvernement n'est pas arrivé aussi à régler la question du Maine, de ces gens dans le sud qui font des kidnappings et détruisent les oléoducs non plus.
Oui, mais il faut quand même pouvoir distinguer entre certaines activités des gens qui sont contre le gouvernement et des activités qui résultent du fait que la situation économique dans certaines couches de notre société n'est pas à l'optimum. Certains gens sont pauvres, c'est normal qu'ils recourent à certaines choses, kidnapping, etc. Mais il y a des gens qui sont plutôt riches, mais qui continuent à se trouver dans cette histoire de kidnapping parce qu'ils veulent s'enrichir à tout prix.
Le professeur Asho Akakuru de l'université de Port Harcourt dans la région pétrolière du Nigeria. Nous terminons l'émission par le Burkina Faso où, 16 ans après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, la mobilisation pour que justice lui soit rendue n'a pas faibli le week-end dernier. Mais les autorités de la transition vont-elles tenir leur promesse de réouvrir le dossier? Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
Voilà 16 ans que notre confrère Norbert Zongo a été assassiné. Mais ce 16e anniversaire a une particularité. que nous livre ici Chrysogone Zougmouré. Il est le président du MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples.
Un des traits caractéristiques, c'est l'espoir de voir aboutir le dossier Norbert Zongo. En effet, les 30 et 31 octobre 2014, le peuple burkinabé, à travers toutes ses composantes sociales, s'est insurgé contre la dictature militaire constitutionnalisée du pouvoir de la 4e République, chassant le capitaine Blaise Compaoré du pouvoir. Ce mouvement insurrectionnel, qui résonne comme un résultat du sursaut patriotique salvateur, fait renaître au sein des démocrates d'ici et d'ailleurs l'espoir d'un changement en matière de gouvernance et de démocratie. C'est l'espoir, enfin, de voir étancher cette soif de justice qui nous a conduits dans la rue ces 15 dernières années.
Pour la première fois, on aura vu sur les lieux du meeting des membres du gouvernement conduits par le Premier ministre. Mais le protocole n'avait pas prévu une adresse du Premier ministre Yacouba Zida. Il a fallu l'insistance interpellative du public pour qu'il monte sur le podium pour dire ceci.
Le souverain peuple a demandé à ce que je parle. Alors je ne vais pas me dérober. Nous avons préféré être sur place pour entendre ce que le peuple veut. Le message est très clair, le peuple veut la justice. Alors je puis vous rassurer que la justice sera rendue au camarade Norbert Zongo. Justice sera rendue à tous ceux qui sont tombés sous les balles assassines du président Blaise Compaoré. Nous allons y travailler.
La veuve de Norbert Zongo, encore sous l'émotion, apprécie ici la déclaration du Premier ministre. On écoute Madame Geneviève Zongo.
On attend les actes, parce qu'il ne faut pas parler sans les actes. Que les paroles soient accompagnées des actes. C'est de voir toute la lumière faite sur ce dossier. Et que les assassins et les commanditaires soient arrêtés et jugés conformément à la hauteur de leur vie.
Et sur les actes concrets attendus, suivons la piste que donne Maître Benevende Sankara, un des avocats de Norbert Zongo.
Les actes les plus concrets, c'est-à-dire procéder à une expulsion sérieuse du dossier, procéder, si besoin en est, à des arrestations et faire un procès vraiment juste, équitable, pour que nous puissions savoir quels sont les assassins, quels ont été les commanditaires.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, pour VOA Afrique.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Michel Joseph. À la technique, Miral Dubinski. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec la grande musicienne malienne Oumou Sangaré et son Yalla. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur VOA Afrique. Ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Yeah.